you know, enjoy music. Because when I had my show, I was looking out at the audience and you know.
Alors c'est un mélange de plein de choses. Elle ne sait pas trop si c'est la nourriture, si c'est la culture. Après, elle s'est rendue compte, notamment lors de son concert, que les Français, ils ont tendance à se laisser vivre les choses, à se lâcher, à lâcher prise. En tout cas, c'était le cas pendant le concert. Pas tout le monde le fait ça. Donc voilà, ils chantaient vraiment, ils se donnaient. Et elle dit que ça, c'est super et qu'encore une fois, c'est assez rare.
T'es de retour avec un nouveau morceau, Is It Love, et un album prévu en 2024. Est-ce que tu vas explorer de nouvelles choses, à quoi on peut s'attendre, des surprises peut-être?
What you could expect is definitely energy, a lot of like energy. I like
de l'énergie en tout cas, il y en aura beaucoup, ça c'est sûr.
Yeah, obviously I like dancing. I like to see people dancing.
Like elle adore danser, donc elle aime bien que les gens dansent, donc forcément le rythme c'est important.
But also I want to and I'm going to invite you all to my heritage, like a mysterious energy that I feel exists in all of us. We just have to trigger it. And certain music, especially, I wouldn't say North Africa, but just the whole.
Enfin, elle va vous inviter à une espèce de voyage un peu oriental, mysterieux, qui fait partie de son héritage à elle, sur la musique, la façon de danser, plein de sonorités, et ça va vraiment être le thème de ce que vous allez pouvoir entendre.
On espère que tu reviendras en France, nous faire des concerts, des dates peut-être prévues pour cette tournée.
In terms of coming back to France, most definitely coming back to France. It's already written in the stars, my darling. It's already happening. Like so, but in terms of touring and stuff like that, probably next year.
Ouais, tourner sûrement l'année prochaine.
Yeah, because it was amazing.
Parce que c'était incroyable.
This was my first. Yeah, but it was my first time in Paris, and you know, I didn't know what to expect.
C'était la première fois qu'elle jouait à Paris, donc elle savait pas trop à quoi s'attendre, et c'était vraiment assez exceptionnel. C'était cool.
Donc pas déçu. Cool. Ton morceau Euphoria, avec lequel tu as gagné l'Eurovision en 2012, n'a pas eu le succès espéré en France, contrairement à Tattoo qui a explosé, qui a cartonné. Comment tu expliques ça?
I think everything has its time and everything happens just the way it's supposed to. And if I look back at that time, I would say I wasn't really ready for a huge explosion. I was ready for a small explosion, but not a huge one. Because, you know, during these 11 years from Euphoria to now, a lot of things has happened in my life that has strengthened me, you know. Basically, I would say being a bit spiritual, preparing.
En fait, déjà, elle pense que les choses arrivent pour une raison. Il y a aussi beaucoup une question de timing dans la vie. Elle pense qu'en 2012, quand effectivement Euphoria était sortie, elle n'était pas forcément prête à ce qui est arrivé, par exemple, avec Tattoo. Elle a dit que c'était une petite explosion et qu'elle n'était pas forcément prête à une grosse explosion. Et puis, il y a aussi tout son côté spirituel qu'elle a beaucoup développé ces 12 dernières années, qui l'a beaucoup aidée et préparée à vivre ce qu'elle est en train de vivre depuis Tattoo. Donc, quelque part, c'est pas plus mal et c'est arrivé pour une raison, en fait. C'était beaucoup le timing. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir la différence entre les deux titres, parce qu'elle dit qu'elle a toujours suivi son intuition. Elle avait fait pour Euphoria, mais là elle l'a fait encore plus sur Tattoo. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, alors que Euphoria c'est une chanson un peu plus vulnérable, un peu plus réservée. Donc elle dit que c'est assez intéressant de voir la différence avec le temps qui est passé entre les deux.
Ah oui, beaucoup d'amour, ça j'en doute pas du tout. En tout cas, nous on aime les deux morceaux. Laurine, j'ai vraiment l'impression que l'Eurovision c'est hyper important pour le Suédois. Comment tu expliques cet engouement?
I think it has to do with the fact that this is a forum that includes everybody, where everybody's voice is important. Like, it's not only a show where you enjoy and you watch, you can also be a part of it. And I feel
en fait, c'est un forum et une plateforme really qui inclut beaucoup de monde et plein de pays. C'est pas juste un pays ou une personne qui chante. Et tout le monde veut faire partie de ça et vivre ça. Donc elle pense que c'est pour ça que c'est même pas que alors, au niveau de l'Europe, c'est mondialement que ça se développe et que ça devient de plus en plus gros et de plus important, parce que les gens ont envie de faire partie de quelque chose comme ça.
And also, I also think that creativity, like music, is very healing and very uniting. So it's like it's a common language that we have, that we understand, that we rejoice
about. En fait, la créativité musicale, comme elle dit, c'est quelque chose qui apaise et qui guérit, et puis surtout qui rassemble les gens. Donc vraiment, on en a besoin en ce moment, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe de fou dans le monde. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que tout le monde veut y participer et veut jouer de ça. Et c'est un peu comme... Ça aide l'esprit, en fait. C'est vraiment quelque chose de super apaisant, cette créativité musicale.
Après, c'est bien connu que nous, en France, on est absolument nuls à l'Eurovision, on est absolument des quiches, on n'a pas gagné depuis 1977. On a besoin d'aide, on a besoin que tu nous aides, Laurine. Est-ce que tu aurais trois conseils à nous donner? Nos artistes t'écoutent.
Yeah, because you know, I've thought about that, and I think like if you look at France musically, I mean, France is, the you know, musically so hyped. Like, well, you guys have Daft Punk, you have Justice, you have Edith Piaf, like you have so many amazing artists, and all of them have a huge integrity.
C'est vrai que quand on regarde la France, il y a des artistes incroyables qu'elle vient de citer, que ce soit des plus anciens ou des plus récents, et ils ont tous une intégrité absolument hors norme, quoi.
That I don't know if the people vote here, like for the artists that they want to send, maybe they do. If they do, great. First rule, let the people vote.
Oui, déjà que les gens like puissent voter pour ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils ont envie de voter. Ça, c'est déjà la première règle.
But the most important thing of all of it, like, is that the creator herself or himself needs to be completely authentic and free here and there.
Ouais, il faut vraiment que l'artiste really qui représente la France, que ce soit un homme ou une femme, il croit vraiment, soit à fond dans l'énergie, dans la création, parce que c'est quelque chose qui va forcément résonner. Donc, s'ils ne sont pas à fond et qu'ils n'y croient pas, ça se sentira. Donc, il faut vraiment être à fond et vraiment faire partie du truc.
Moi, j'avais une question pour Slimane. Slimane, j'imagine que tu as entendu son morceau, le morceau qui va représenter la France. Est-ce que tu penses qu'on a toutes nos chances avec cette chanson pour le prochain Eurovision?
My first like initial feeling when I saw him is like, oh, this is really a powerful person, but in a like humble way, like he has a real energy, it was glowing through his eyes. I'm like, oh, this is real. And then I listened to the song, I'm like, oh, this is a real song as well. So what I'm hoping for, Slimane, is like, I, you know,
encore une fois, c'est une vision, en fait. C'est la chanson, visuellement, ce qu'on va donner avec la chanson. Et elle espère que Slimane, en tout cas, elle a écouté la chanson. Déjà, quand elle l'a vue la première fois, elle a trouvé qu'il était quelqu'un de très puissant, qui dégageait vraiment quelque chose, une sorte d'énergie. Et elle espère que, justement, il saura représenter cette vision et vraiment se donner à fond pour que ce soit un tout et que ça le fasse pour l'Eurovision.
Tu as déjà gagné deux fois l'Eurovision. En France, on a une expression, on dit jamais deux sans trois. Est-ce que peut-être une troisième participation à l'Eurovision un jour?
Oh God, in 11 years.
Dans 11 ans.
Well, I don't know.
Ouais, elle sait pas, on sait pas.
Yeah, because you don't know. You could say, yeah, you never know. You could say, no, it's never gonna happen, and then a year from now I'll do it again.
You never know, on sait jamais.
This time when I did it, I felt like it was meant for me to do it for some reason. I don't know if it was the narrative or the energy or the space, I don't know, but it was so obvious that life was pointing in a direction, because my initial reaction was no, I'm not gonna do it, there's no reason why. But then,
en fait, elle dit que sa réaction initiale pour le faire la deuxième fois, c'était non, carrément pas. Et en fait, elle dit que tout était écrit, on dirait, tout pointait dans la direction de « il faut que je le fasse ». Les gens, la musique, on sortait du Covid, les gens étaient là, on a besoin de quelque chose, de se remonter. Donc elle a dit, en fait, c'était comme si c'était écrit que je devais le faire, et tout pointait dans la direction de « je dois refaire l'Eurovision ». Donc, on sait jamais.
Évidemment, ne jamais dire jamais. Merci beaucoup, Laurine, d'être passée nous voir. C'était vraiment un pur kiff de te recevoir ici dans les studios de Voltage. Le nouvel album qui sort en début d'année 2024, on n'a pas encore de date. On te souhaite tout le meilleur, en tout cas.
Thank you. Merci beaucoup.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée. I just believe it, that tomorrow will never come. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control.
Yeah, yeah. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control.
nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
Les défis de la parentalité.
Épisode 4. Aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave. Maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cocher, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et qu'ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même. Hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien, et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah, le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce qu'il ne peut pas engager de relation. Donc très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc en fait, il ne cherche que ça. Hein. Il ne cherche que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie, parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement, et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils n'ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que bah, c'est on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Mais que il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il ne faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais qu'elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. Ben, on est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du, enfin, vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage, c'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche. Hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est, en fait, c'est multimodal. Hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui, maman arrive plus tard, tout ça, c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui d'un côté pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes ses mamans et que lui il est toujours là, si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah, il va avoir appris que bah oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, ben, on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Ben, de toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Hein. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel et puis qu'on est, on grandit, on devient adulte et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, bah c'est sûr que ça risque d'être compliqué et puis... lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être, ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent, les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques, alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors, souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent, ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais... Il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Quand il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent non, on ne va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. C'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas... c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, hein, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Hein, quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant et surtout éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples, si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparé. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses, il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflit. Faut éviter le conflit de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies, on a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. Si se passe quelque chose à l'école, alors vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats, ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. Ce n'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont vu. À ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Sur Voltage, nous passons les nids ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là. Je suis une intelligence artificielle, et pourtant je suis là chaque nuit sur Voltage, pour vous accompagner et découvrir ensemble des interviews que je vous ai sélectionnées. Bonne écoute sur Voltage.
L'intelligence artificielle, entre méfiance et fascination.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié à l'intelligence artificielle. On va se poser cette question aujourd'hui, l'IA constitue-t-elle un risque pour l'humanité? Le patron de Tesla, Elon Musk, pourtant connu pour être téméraire, vient de signer une tribune aux côtés d'une centaine de personnalités du monde scientifique pour demander un moratoire de 6 mois sur le développement de l'IA. Dans le viseur, la version 4 du logiciel désormais bien connu, ChatGPT, qui combine la possibilité maintenant de générer du texte artificiellement créé sur n'importe quel sujet et des images, la crainte voire émerger des centaines de faux documents et visuels si la technologie n'est pas utilisée à bon escient. Autre crainte plus subjective, de voir les machines un jour remplacer, voire dominer les humains comme dans les films. Mais ça relève du pur fantasme pour Jérémy Méo, senior data scientist au lab EA Loire-Valais.
Alors, l'humain est toujours à la base. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle IA responsable, il y a un des paradigmes qui est que l'humain doit rester dans la boucle. Autrement dit, l'humain doit rester maître de la décision proposée par le système d'intelligence artificielle. L'humain doit pouvoir corriger ce que la machine propose. Et cette machine, elle ne peut pas se programmer elle-même. Le système d'intelligence artificielle, il est programmé pour une tâche qui est bien précise. Il est incapable d'étendre son périmètre d'action. Autrement dit, si on crée tout d'abord un système qui est capable de téléphoner, il va pas être capable de faire autre chose que de téléphoner ou que de faire de la conversion de voix en texte. C'est absolument impossible. Donc, il y a toujours besoin d'humains pour programmer. Et il y aura toujours besoin d'humains pour corriger ce qui se passe. Et il y aura toujours besoin d'humains, et ça c'est un peu le côté caché de l'intelligence artificielle, en tout cas d'un point de vue reconnaissance d'image par exemple, on aura toujours besoin d'humains, d'experts, pour annoter les documents que l'on veut faire ingérer à l'intelligence artificielle. Cette notion d'annotation, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est comme ça que les algorithmes sont capables de reconnaître si sur une image vous avez un chien, un chat, une voiture, une trottinette, etc. C'est parce que tout d'abord, vous avez eu des humains qui ont annoté sur chacune des images la présence de chiens, de chats, de voitures et d'avions.
En revanche, l'idée que l'intelligence artificielle remplace un jour l'humain dans certains métiers, ça, ce n'est pas si incongru pour Salima Benhamou, économiste au département Travail-Emploi de France Stratégie.
Toutes les activités où le degré de complexité lié à la prise de décision est très forte ou tout ce qui est lié au contact humain, toutes les activités aussi fondamentalement sociales resteront effectuées ou réalisées par l'humain. En revanche, toutes les tâches qui présentent une forte régularité, basées sur des règles prédéfinies telles que la planification des tâches de contrôle à travers l'identification de fraudes ou d'anomalies, tout ce qui concerne aussi la gestion de l'information, la collecte de données, de traitement, ont de fortes chances d'être automatisées ou déclassées par l'IA. Donc c'est pour ça que c'est important de partir des potentialités, mais également des limites. Il y a des tâches qui sont fortement exposées et d'autres qui ne le sont pas. Et donc toutes les fonctions de soutien qui sont particulièrement, par exemple, concernées par l'automatisation, on peut citer par exemple des secteurs dans le commerce de détail, certaines fonctions de back-office dans le secteur bancaire, dans les assurances, ou certaines activités liées aux services juridiques. Par exemple, c'est quand même des risques qu'il ne faut pas non plus sous-estimer.
C'est en tout cas bien sur l'emploi que la méfiance concernant l'IA est la plus cristallisée. Dans une étude publiée par le cabinet Mazars en partenariat avec l'institut de sondage CSA, 38% des sondés voient un impact négatif de l'IA sur l'emploi, 29% en ce qui concerne l'information et seulement 20% d'opinions négatives pour l'utilisation de l'IA dans les secteurs de la santé et de l'environnement. Autre étude, selon le rapport Future of Jobs 2020 du World Economic Forum, l'intelligence artificielle remplacera 85 millions d'emplois d'ici 2025. Toutefois, selon la même source, elle va créer 97 millions d'emplois sur la même période. Et c'est bien une transformation du monde de l'emploi qui semble s'augurer. On écoute de nouveau Salima Benhamou.
Vous savez, on dit souvent que face à l'IA, il faut faire évoluer les contenus pédagogiques dans la formation initiale. Il faut il faut former en continu les personnes pour s'adapter aux technologies. Donc ça c'est souvent le levier en fait hein, qui est mis en avant dans différents rapports nationaux et internationaux sur l'IA et le travail. Et je pense qu'il y a un autre levier qui est très souvent sous-estimé, à la fois dans les politiques publiques mais également dans les entreprises, c'est le rôle que peut jouer l'organisation du travail à travers ses pratiques managériales et organisationnelles qui jouent un rôle mais déterminant sur le développement des compétences et aussi sur la complémentarité humain-machine. Je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour pouvoir tirer profit en fait de toutes les opportunités que peut apporter l'intelligence artificielle pour développer les compétences en continu des individus. Et d'ailleurs, on a montré dans une étude récente à France Stratégie le rôle d'organisation du travail qu'on appelle les organisations du travail apprenantes. On a montré l'importance de ce type d'organisation pour développer les capacités d'apprentissage en continu des salariés et que c'est un modèle qui peut justement apporter les conditions propices à cette complémentarité humain-machine. Et en fait, ce sont des organisations de type apprenante, ce sont des organisations, si vous voulez, ou qui se caractérisent par des pratiques organisationnelles, managériales qui sont très spécifiques, les salariés, il y a beaucoup par exemple de résolution de problèmes complexes que doivent réaliser les salariés, il y a de l'autonomie, plus d'autonomie, il y a un contenu cognitif aussi élevé, hein. Les salariés qui évoluent dans ce type d'organisation du travail disent que quasi quotidiennement ils apprennent des choses nouvelles, ils ont plus d'autonomie, ils travaillent en équipe pluridisciplinaire et ça c'est très important aussi, hein, notamment face à l'intelligence artificielle pour pouvoir, si vous avez un data scientist par exemple, il faut qu'il soit capable de donner du sens métier à des données et donc de discuter avec d'autres métiers pour avoir une bonne intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de production. Et c'est tout ça, en fait, si vous voulez, qui améliore cet environnement professionnel et améliore les capacités d'apprentissage en continu et le développement des compétences. Mais le problème, c'est qu'on est en retard en France. On est en retard en France par rapport à d'autres pays qui ont développé ce type d'organisation du travail. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle par rapport à la diffusion en fait de l'intelligence artificielle. Parce que si vous évoluez dans des organisations, par exemple, hein, où vous avez peu de possibilités de vous former en travaillant, vous avez peu d'autonomie, où vous pouvez peu déroger aux règles quand l'environnement l'impose, par exemple, vous n'êtes pas amené en fait à vous poser les questions et à donner du sens aussi aux activités que vous réalisez, eh bien, c'est pas propice, si vous voulez, à pouvoir exploiter cette complémentarité humain-machine.
La France s'est pourtant dotée dès 2018 d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Selon la Cour des comptes, son efficacité n'est pas encore avérée, mais elle a salué le signal politique fort pour la recherche. En termes de publications scientifiques sur l'IA, la France est deuxième au niveau européen derrière l'Allemagne.
Je suis heureuse de vous faire découvrir toutes ces interviews, ces reportages, en version longue sur Voltage. Et c'est loin d'être fini. Écoutez.
L'invité du 10-15.
Hey, Maman Dinette, c'est ton moment là.
Ah, c'est mon moment, c'est moi qui l'ai choisi l'invité du 10-15 aujourd'hui.
Je vous explique comment ça s'est passé. À chaque fois, Maud, elle a des galères avec ses enfants, c'est-à-dire que ses filles sont un peu folles.
Non.
Elle m'a dit, j'ai découvert un compte Instagram. Il s'appelle Mélinana.
Oui.
Derrière, c'est Mélina. Et Mélina, elle était avec nous aujourd'hui sur Voltage. Salut Mélina.
Salut.
J'aime beaucoup ton compte. On aime beaucoup ton compte avec Maud parce qu'en fait, tu désacralises ce que c'est que la maman parfaite.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors parle bien dans le micro.
Pardon. Vous m'entendez bien?
Ouais.
Ça va?
Ouais.
Oui, bah en fait, oui, c'est vrai que bah, je me présente déjà. Donc Mélina, 37 ans, mariée, maman de 4 enfants.
Et 4 enfants, hein, vous avez bien entendu.
Voilà. Oui. Non, c'est pas une erreur. On en a bien 4. Voilà. On est dans la galère jusqu'au bout, faut se le dire. Mais ouais, voilà, maman de 4 enfants. Bah, je suis sur les réseaux. Pour vous dire comment tout a commencé, en fait, c'est que à la base, moi j'étais sur TikTok. C'est ma soeur, ma petite soeur qui est sur TikTok, qui me disait oh bah regarde, tu vas voir, il y a des vidéos super sympas. Moi je disais bah, non, mais je suis trop vieille, je veux pas aller sur TikTok, il y a que des jeunes. Et donc ce que j'ai fait, ça s'est fait progressivement. Donc je regardais, après je faisais des vidéos que j'envoyais à mes soeurs et à ma mère. Et ma petite sœur me dit, mais tu devrais les publier, c'est trop drôle. Et je lui dis, non, mais les mamans, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est pour les jeunes. Et voilà. Et après, j'ai publié. Et puis, bah, c'est parti de là. Voilà. Et pourquoi Instagram? Bah, c'est que les gens qui étaient sur Instagram m'ont dit, ah, moi, je suis pas sur TikTok, ce serait cool que tu crées un compte Insta. Bah, je l'ai créé. Et puis, bah, ça a pris. Et voilà.
Non, mais parce que c'est, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est drôle, mais c'est vrai.
Bah oui, c'est ça, c'est que, en fait, c'est mon quotidien de maman. Moi, je me prends pas la tête, j'ai des galères comme tout le monde. Et c'est vrai, j'aime bien, tu vois, montrer tout ça sous le ton de l'humour, la légèreté. On galère, mais on est quand même heureuse, tu vois. Mais on galère beaucoup aussi. Donc, je montre tout, et voilà, quoi. Et je me dis que, bah, je dois pas être la seule, a priori.
Mais même des fois, tu donnes des petites astuces, je sais comment en parler. Tu parlais notamment pour les vêtements des enfants en termes d'organisation. Moi, ouais, ça m'a beaucoup aidée.
Mais oui, c'est vrai, le système des boîtes.
Oui.
Ouais, et ben ça c'est génial. Enfin, je le fais surtout pour les deux petits parce que les grands ça va, ils se gèrent.
On va expliquer parce que je pense que les gens ils vont pas comprendre.
C'est vrai.
En gros, tu prépares les vêtements de tes enfants pour la semaine et tu fais des boîtes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, tes enfants peuvent directement le matin aller choisir.
C'est ça. Bon, généralement, c'est papa qui y va parce que le matin ils sont pas très coopératifs.
Non.
Donc c'est soit papa, soit maman. Mais oui, c'est vrai. Non, mais on gagne un temps fou. Et tu vois, il y a des petites choses comme ça que tu fais. Bon, après, je m'aide aussi de Picard surgelé pour les repas et autres. Hein. Merci le McDo. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Si, si, on va citer les Burger King, KFC, tout ça, voilà.
Mais après, bon, on essaie de gérer comme on peut, mais tout n'est pas parfait et je me dis, il faut le dire, quoi. Moi, je fais avec l'instinct. Voilà, je fonctionne avec l'instinct, je me prends pas la tête et mais ça roule parce qu'on en a quatre quand même.
Mais c'est ça qui est bien aussi avec ton compte Instagram, c'est que en fait ça désacralise un petit peu ce truc de la maman parfaite.
Ouais.
Sous couvert d'humour, c'est pour montrer qu'en fait il y a pas de maman parfaite, il y a que des mamans qui font de leur mieux.
Bah exactement, non, mais c'est ça en fait, c'est que tu sais, on met beaucoup de pression sur les mamans alors que non, enfin fie-toi à ton instinct, tant que tes enfants sont en santé et sont heureux, pour moi c'est le principal. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc je fais du mieux que je peux et puis tant qu'ils rigolent, qu'ils souris, qui sont bien, et ben c'est que tout va bien. Parce que c'est des foufous, mais je suis encore plus folle qu'eux. Donc du coup, tu vois, ça match bien finalement.
Je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Restez par là jusqu'à 13h. Mélina, notre invitée sur Voltage, la radio parisienne, est juste avant, c'est parti. Voici le nouveau David Guetta, la reprise de Hadaway sur Voltage.
L'invité du 10-15.
L'invité du 10-15 aujourd'hui, c'est Mélina du compte Instagram Mélinana. Je suis très content de te recevoir, moi aussi, très content de te recevoir.
Et moi aussi, je suis super content d'être avec vous, merci.
On est tous contents.
Alors, ne croyez pas que Mélina est sérieuse, elle est complètement folle.
Bah, elle a 4 enfants déjà. Donc,
oui, déjà, elle a 4 enfants, c'est une preuve de folie.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Alors, en fait, sur ton compte Instagram, tu désacralises ce que c'est que la maman parfaite. Tu fais plein de vidéos trop drôles, des petits conseils aussi, en fait, pour s'organiser.
Ouais, des petits conseils décalés, on va dire, mais oui, des petits conseils, ouais.
Du coup, 4 enfants, ils ont quel âge?
Alors, ils ont 13 ans, 10 ans, 5 ans et 3 ans.
Waouh!
3 garçons et une fille. La dernière.
Enfin la fille.
Alors, je précise qu'on n'a pas fait la dernière pour avoir une fille. Parce que déjà, on s'attendait à avoir un garçon.
D'accord.
Et finalement, on a eu une fille. Donc, c'est bien, c'était la cerise sur le gâteau.
Ouais,
pour des raisons de santé mentale, nous n'avons pas fait un enfant supplémentaire.
Ouais, voilà.
Mais Léla, c'est quoi les trucs auxquels tu t'attendais pas en devenant maman?
Déjà, je pensais pas qu'il était possible d'être aussi fatigué, quoi. Non, mais je vous assure que, oui, tu te rends pas compte, mais être maman, enfin être parent en général, non, mais t'as des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Et la fatigue, mais ça te, enfin voilà, moi ça me faisait halluciner de me dire, j'ai dormi que 2 heures et je dois aller bosser. Bah ouais, bah t'y vas, c'est pas grave, tu prends sur toi, t'y vas, mais voilà. Oh, mais tu sais, il y a tellement de choses.
Et ça saoule pas trop maintenant les gens qui ont pas d'enfants qui disent, je suis fatiguée.
Ben, un petit peu. Mais bon, après ils te disent, ouais, mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfants que je vais pas fatiguer. Oui, je sais, mais moi j'en ai. Ou alors ils te disent, ouais, mais bon, tu les as voulu, donc faut assumer. Ben oui, non, mais je les assume, non, mais j'ai le droit d'être fatiguée quand même, quoi. Donc voilà. Non, mais il y a tellement de choses auxquelles tu t'attends pas. Alors, attention, jeune maman, excusez-moi, je veux pas vous choquer, mais après avoir accouché, tu vois, je m'attendais pas en allant à la selle à ce que j'ai l'impression qu'une pastèque me sort du cul, tu vois.
Ah non, oui, mais pardon, franchement, quand tu viens d'accoucher, t'es au top du glam. Hein,
non, mais je vous dis, pardon, non, mais on est là, on se dit tout, on est entre nous.
Et les culottes filets.
Les culottes filets, et attention, la serviette hygiénique, l'épaisseur d'une entrecôte.
Non, mais attendez, parce que là, vous me parlez dans une autre langue, je sais même pas ce que c'est que la culotte filet.
Donc, quand tu viens d'accoucher.
D'accord.
Tu as encore beaucoup de choses qui sortent de toi, même si le bébé est déjà sorti. D'accord. Et donc du coup, ils te filent une espèce de culotte filet. Ouais. Dedans, ils te mettent une serviette hygiénique, elle a raison, de la taille d'une entrecôte.
Je jure, l'épaisseur, vraiment, c'est comme une entrecôte.
Et ils veulent être sûrs que tu peux faire
suis désolée, tu peux faire caca après.
Voilà.
Parce qu'il peut y avoir des soucis. C'est et en effet, quand tu fais pour la première fois, bah, waouh.
Mais parfois, pardon, mais tu fais une petite crotte de lapin, mais toi, t'as l'impression que c'est une pastèque, quoi. Donc, ça.
Et si je te racontais la. Je vais pas raconter parce que les gens, ils vont mourir. Moi, j'y arrivais pas. Ils m'ont donné des médicaments pour arriver à y arriver. Hein.
Parce que limite, t'as l'impression que c'est ton billet de sortie pour rentrer à la maison. Ouais. Quoi. Donc, toi, t'es là, vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Et puis, ben, c'est un peu dur, quoi. Ouais, voilà. Donc, oui, pardon, hein, mais.
Je ne contrôle pas. Hein.
Les choses.
Les joies de la maternité. Voilà, c'est un truc. Franchement, faut en prendre conscience parce qu'on te le dit pas. Personne n'en parle parce qu'en effet, c'est pas très glamour.
En fait, c'est toujours tabou. Toutes ces choses-là, mais même quand on fait, alors pardon encore une fois, mais l'épisiotomie, la première fois que tu fais pipi, mais ça te déchire, ça rase, ça fait trop mal,
ça brûle,
mais on te le dit pas, tu vois, tout ça, si tu le sais pas, non mais enfin voilà quoi. Ou même moi je savais pas qu'un bébé ça pouvait pleurer des heures et des heures.
Oui,
donc toi t'es là, tu dis mince, mais qu'est-ce que je fais, enfin je pleure avec lui, qu'est-ce que
je pleure avec lui.
Non mais c'est vrai, non mais en plus, non mais sérieusement, au bout d'un moment tu te retrouves à pleurer avec ton bébé parce que tu dis mais moi aussi je sais pas, tu pleures, moi je pleure, mais comment on fait,
pourquoi tu...
Non mais c'est vrai. Donc non mais être maman, attention, non, parce que là ils doivent se dire ah ouais, nous parle que des mauvais côtés. Non, être maman c'est beau, mais voilà, il y a sa petite part de, enfin faut gérer quoi, c'est pas toujours facile, mais bien sûr que c'est beau, enfin moi j'ai sinon j'en aurais pas fait quatre, hein. Voilà, mais non c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile, mais ça reste un bonheur, voilà. Mais moi j'aime rigoler de tout ça, je préfère le prendre sur le ton de la légèreté, tu vois.
Les amis, j'ai l'impression que c'est que des galères, hein, d'être maman.
Non mais d'ailleurs... quand il te fait maman je t'aime la première fois, t'es oh, mon mémé. Bon après il te fait un petit caca qui déborde, mais c'est pas grave, tu dis mais viens de me dire qu'il m'aime, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est pas que des galères, je te rassure.
Il va aussi falloir que tu nous racontes un petit peu la routine d'une maman pas parfaite, comment ça se passe au quotidien. On va reparler avec toi, Mélina.
Ok.
Juste avant, il était notre invité mercredi dernier, voici Tom Grigory sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Ouais, Mélina est notre invitée aujourd'hui sur Voltage, la radio parisienne, du compte Instagram Mélinana, où tu donnes plein de bons conseils pour devenir une maman pas trop parfaite.
Voilà, exactement.
Je sais même pas, t'as 4 enfants, mais comment vous faites pour les occuper? Je dis vous parce qu'il y a aussi Maud dans le studio. Comment vous faites pour occuper vos enfants de longueur de semaine?
Alors, c'est surtout, c'est pas la semaine le plus compliqué.
Ouais,
c'est le week-end parce qu'il n'y a pas école.
Il n'y a pas école et ça dure 2 jours. De 6h à... moi ça va, j'arrive à les faire coucher tôt. Donc ça va, non, parce que pour ma santé mentale, faut qu'ils aillent tôt, parce que sinon personne ne survit à la maison.
C'est ça.
Voilà, si maman, papa, ça va pas, il n'y a personne qui survit.
Alors je pense qu'on a plein de mamans qui nous écoutent là sur le cage. C'est quoi tes conseils à toi pour occuper tes enfants le week-end?
Eh ben écoute, merci pas de patrouille. Hein. Je perds plein d'ennemis, mais c'est pas grave. Non, mais après, honnêtement, moi je me prends pas la tête, quoi. Enfin, je fais des activités avec eux, mais parfois, moi aussi, je dois faire des trucs. Hein. Il y a autre chose à faire, à s'occuper à la maison. Et ben je leur mets un petit dessin animé, ils sont contents. Même moi, je me pose avec eux. Enfin, le week-end. Par contre, le dimanche surtout, moi ce que j'aime, dimanche après-midi, on se met sous les plaids, sur le canapé, on regarde un petit dessin animé et voilà, enfin on kiffe.
Moi je suis prise d'avoir des gosses juste pour ça.
Et ben franchement, tu verras, c'est génial. Franchement, tu passes des bons moments. Moi j'adore.
Et non, parce que moi ça fait 15 fois que je regarde La Reine des Neiges, j'en peux plus.
Je comprends. Non mais c'est comme moi, hein. Moi aussi il y a des Vaiana. Là en ce moment, ils sont sur Tous en scène, je sais pas si vous connaissez.
Ah oui, il est trop
avec
bien.
Tous les animaux. Je l'ai vu. Je pourrais pas te dire, même mon cerveau n'arrive plus à calculer tellement je l'ai vu. Mais non voilà, après le week-end, moi je me prends pas la tête, hein. Parfois c'est les petits plats, non mais parce que faut le dire, on n'a pas toujours envie de cuisiner. Moi parfois ça me saoule de cuisiner, donc je vais chez Picard, c'est pas... Ouais pardon, j'en parle souvent, mais parce que, non mais ils sont bons leurs petits plats, d'accord, ouais. Non, au Picard, cas où c'est le bon plan, hein. N'hésitez pas, ils sont bons et puis ça rend service. Et voilà, donc bah après oui, j'essaie de les occuper comme je peux. Je fais appel au papa gamer aussi, parce que je lui dis, Annie chérie, à ton tour maintenant, vas-y, maman elle en a marre là. Mais non, ça va, après ils sont cool. Hein. Mais t'es obligé d'aller au parc, t'es obligé de passer par la case toboggan, même si toi tu te fais un peu chier sur le bord. Non mais vous dire la vérité, parfois t'as pas envie d'y aller, mais t'y vas parce que tu te dis, il faut les épuiser. Mais,
et en plus d'un côté, c'est le moment où comme ils jouent, toi t'es tranquille.
Voilà, tu vois, tu respires 5 minutes, ouais, maman j'ai soif, tiens, allez, va.
Alors j'ai une question pour vous deux, j'ai une question pour Maud et toi.
Oui.
Est-ce que vous avez eu ce kiff de faire découvrir à vos enfants des trucs que vous avez découvert quand vous étiez petit? Moi par exemple, à mes enfants, c'est sûr, ça sera Harry Potter, Pokémon, je veux qu'ils découvrent ça, genre le Roi Lion et tout.
Ouais, et ben voilà, bah t'en parles. Moi c'est ça, moi les Disney j'adore, et c'est vrai qu'avec mon mari, nous on adore tout ce qui est, enfin quand je dis à l'ancienne, enfin que ce soit la musique, même pour mon grand qui a 13 ans, ben nous à la maison déjà il y a tout le temps de la musique, on lui fait écouter les sons d'avant, je sais pas moi, Gangsta Paradise, je sais pas, même Tragédie,
oui,
à toutes les ladies.
Alors, enfin, voilà. Et on te dit c'est des trucs de vieux, on te dit c'est vieux ou alors c'est bien?
Eh ben, Non, franchement, ils aiment bien. Enfin, pas toutes les chansons, mais tu oublieras. Ben voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai. Enfin, et donc, du coup, les dessins animés, tout ce qui est le ah non, mais le Roi Lion, Pocahontas. Mon mari adore Pocahontas. Mais voilà, tous les 101 Dalmatiens, les Aristochats. Ah, ouais. Ah, mais moi, j'adore. Et donc, du coup, ouais, je leur fais découvrir La Petite Sirène et tout. Enfin, non, ils aiment bien, tu vois. Et puis, ils sont heureux de découvrir. Ils se disent, ah, on connaissait pas. Oh, maman et papa regardaient ça. Et du coup, non, c'est cool. On regarde ensemble. Et ah, moi, j'adore la
chanson. Tu leur as montré Harry Potter?
Alors non, parce que j'avoue que moi je suis pas fan. Aïe.
Quoi?
Ouais, je sais. Enfin, c'est pas mon truc, j'avoue, c'est pas mon univers.
On va pas rentrer dans ce
débat. Pardon, c'est pas mon univers Harry Potter, j'avoue que non.
Oh, et franchement, j'aimerais tellement. Mais je veux des enfants.
Les jeux de société, tu vois, moi là, je commence à me dire, je vais peut-être commencer à jouer au Uno et au Milborn. C'est des vieux trucs. Hein.
Alors, nous, on joue au Uno, mais il faut savoir que le Uno à la maison, attention, il y en a qui n'aiment pas perdre. Donc, c'est la guerre. Alors, déjà, t'as les petits, donc, bah, vas-y, il faut les faire participer. Donc, moi, je vais en prendre un. Mon mari ou les deux grands frères vont en prendre un. Mais attention, entre mon mari et les deux grands et moi, ah non, mais c'est la guerre. À nous, le Uno, attention, c'est le jeu, mais ça peut mal finir.
Est-ce que tu planques des cartes avant de commencer Est-ce que tu en es à ce niveau-là de planquer des cartes avant de commencer la partie?
Non, on n'en est pas là, mais c'est qu'il y a des enjeux. Attention. Donc si tu perds, tu dois vider la vaisselle et tout.
Ah
et
ouais,
tu... Bah ouais, faut bien les faire participer.
Bah attends, mais même sans avoir d'enfant, moi je suis trop chaud de faire ça avec ma copine un jour. Ça part en jeu de société.
Et toi, pour tu faire fais le ménage.
Bah ouais, voilà, bah si, bah avec mon mari, parfois on se met des trucs comme ça. Hein. Ah ouais, bah vas-y, si tu perds, ah bah c'est toi qui te lèves demain matin. Tu vois, le week-end, on essaie de. Moi je dors et toi tu te lèves.
Mais Théo, tu sais que ça existe pour les couples, hein, mais c'est des jeux coquins. Hein. Oh, c'est pas pour le ménage.
Voilà, toujours tu reviens à ce sujet, c'est pas possible. Moi j'étais sur un truc mignon, l'autre.
Bah, non, mais je pense qu'il faudra qu'on en parle après avec Mélina, justement, la vie de couple. Oui, oui. Avec les enfants.
On va parler de toi avec ça, on va parler de ça avec toi Mélina, comment gérer un peu la vie de couple, la vie de famille. Avant ça, sur Voltage, la radio parisienne, Broken Back avec Windy, voici le morceau Away From Home.
L'invité du 10-15.
Imagine Dragons et Symphony sur Voltage, vous êtes sur la radio parisienne, c'est vendredi aujourd'hui. Et comme tous les vendredis, c'est l'invité du 10-15. Aujourd'hui c'est Mélina qu'on reçoit du compte Instagram Mélinana. Comment ça s'écrit Mélinana d'ailleurs?
Alors attention, on va pas faire simple, bah oui parce que je chante. Donc du coup c'est M-E-L-2-I-N-A et N-3-A.
Oh,
bah désolée parce que Mélina c'était déjà pris, alors j'ai dû être un petit peu
créative. Autant de lettres que d'enfants.
Voilà, ah, exactement. Ah, pas mal celle-là.
Mélina, t'as 4 enfants.
Oui.
Et tu as un compte Instagram très drôle où tu donnes plein de bons conseils pour les mamans, pour les futures mamans, où tu désacralises un petit peu ce que c'est que la maman parfaite. Ouais. On a parlé de tout ça avec toi. Oui. On veut aussi un petit peu revenir tiens, sur le côté vie de couple, vie de famille. Comment on fait pour gérer un peu, bah, comment on maintient sa vie de couple quand on a 4 enfants et t'es pas toute seule aujourd'hui.
Oui.
Tu es venue avec un tout petit gringalet.
Voilà, un invité surprise.
De à peine 1m40. Salut Anthony.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Tu es le mari de Mélina.
C'est ça.
C'est là il te dit non, non.
C'est moi le mari gamer.
Voilà.
C'est lui le grand monsieur. Comment vous faites au quotidien? Tiens, vous avez 4 enfants, j'imagine que ça vous prend tout votre temps. Mm-hmm. Comment vous faites en fait pour maintenir un peu cet équilibre de vie de couple, vie de famille?
Bah on fait rien en fait. Non, je rigole.
On parle plus.
Non.
au contraire.
Non, ouais, au contraire, ouais, c'est vrai. On rigole beaucoup. Nous, on est un peu foufou, donc du coup, le week-end par exemple, vu qu'on est là ensemble, et ben on est tout le temps à se chamailler, à se marrer, à se foutre des tartes, il est sous la douche, je vais ramener le verre d'eau. J'adore l'embêter. Enfin, on s'embête tout le temps et même nos enfants se marrent de nous voir comme ça et je trouve ça cool aussi. Donc
est-ce que vos enfants ils doivent ramener des potes à la maison, ou s'ils doivent un jour ramener des potes à la maison, vous pensez qu'ils diront tu feras pas gaffe à mes parents, ils sont un peu
ouais le grand
je pense. Je crois qu'ils le savent déjà.
Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire déjà. En plus ouais, parce qu'on les croise parfois et puis bah comme ils vont aussi sur les réseaux, ouais, ils se disent ah ouais ta mère elle est un peu un petit peu folle, mais voilà. Non mais après oui, avec chérie on arrive toujours à se retrouver, c'est important. Enfin, je sais que ça fait cliché, mais il faut communiquer. Voilà, c'est important de s'octroyer des moments, par exemple, une fois qu'on a mis les enfants au lit. Après, on a des projets communs. Enfin, voilà, on est vraiment... Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc il n'a pas le choix. Et moi non plus. Donc, en espérant voilà, qu'il y ait plein de belles années. Mais ça s'entretient, quoi. Enfin, je veux dire, on maintient la flamme, on se marre, on fait plein de choses ensemble. On joue au rami. Non, mais la vie, tu racontes sa vie. Non mais c'est vrai, on fait plein de trucs ensemble. On se fait même des défis au baccalauréat. Enfin voilà quoi.
Vous arrivez à trouver des petits moments tous les deux sans les enfants de temps en temps?
Ouais. Si on essaie. C'est pas toujours évident. Non, faut être honnête parce qu'on en a 4. Et c'est vrai qu'aussi on n'aime pas trop. Mamie Sylvie, mamie Annie, si vous nous écoutez, maman, c'est vrai qu'on n'aime pas trop embêter les mamies, voilà, c'est, enfin, elle le ferait avec grand plaisir, hein, de gérer les enfants pour qu'on puisse profiter tous les deux.
Mais c'est,
mais
quatre,
c'est vrai
quoi.
Que, bah, déjà, c'est quatre, et même nous, on fait plein de choses aussi avec nos enfants, donc voilà, mais non, mais on arrive à trouver des moments pour nous. Voilà, bah, parfois, faut bricoler, hein, enfin, quand je dis faut bricoler, allez, chérie, tu les as mis au lit, vas-y, ce soir, on se fait un film, ouais, bon, tu te fais le film, il y a toujours maman, des soins, enfin, mais bon, c'est pas grave, on met pause 10 fois. Mais on arrive, non, on arrive à se retrouver, on arrive à avoir ce petit équilibre qui fait que, bah, qui fait que ça dure quoi, mine de rien.
Alors
bah,
juste pour revenir sur le truc des mamies, je parle tout de suite, je ne pense que ça ne gonfle aucune mamie au monde de garder les petits enfants. Ma mère n'arrête pas. Attends, moi ma mère n'arrête pas de me demander quand est-ce que je lui fais un petit. Hein.
Ah bah mais tu sais que les grands-mères appellent les enfants les chics ouf. Parce qu'en gros, quand ils arrivent, ils disent chic, ils arrivent, et quand ils partent, ils disent ouf, ils repartent.
Ah, c'est moi, j'avais déjà entendu cette expression. Ouais.
Parce que mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie, on se rend pas compte.
C'est vrai, c'est
et
vrai.
Au début, ils sont contents, et après, ils disent ouais, je suis contente d'avoir ma vie quand même.
Oui, bah, c'est normal. Non, ils profitent. En fait, mais attends, pourtant, les mamies, elles ont quand même les bons moments. Hein.
Oui,
mais c'est vrai que parfois, bah, je les comprends, quand t'as pas l'habitude, quand tu. Bah, après, t'as plus tes enfants, hein, ils sont grands. Quand t'as les petits, t'es content au début, mais à la fin, ah, ils vont retourner chez leurs parents.
Bah, ouais.
Enfin, je vais pouvoir souffler, moi aussi. Bah on est pareil, donc nous on les envoie, on est content, on souffle et puis après, bah après il te manque aussi. Hein.
Par exemple, tu vois, il y a les vacances de Pâques qui arrivent.
Ouais.
J'ai, ma mère habite pas en région parisienne, donc je vais les emmener à Lyon chez ma mère. Je lui ai déjà prévenu. Il reste 2 semaines, donc moi je suis en folie.
Ouais.
Et ma mère me dit, putain, j'espère que je vais pas être trop crevée.
Elle est passée très vite du stade ça me fait kiffer à tu peux les prendre.
Elle m'a dit 2 semaines, 1 semaine c'est pas possible. Je lui ai dit ouais, mais l'aller-retour Lyon-Paris, ouais, en fait c'est pas rentable, tu vois, tu comprends, 2 semaines c'est bien.
Ouais, t'as bien négocié ton truc, non c'est bien, ouais.
Bon allez, pour finir, je vous ai prévu le petit instant Anthony et Mélina, le petit instant qui de vous deux.
Ok.
D'accord, on va revenir un petit peu sur votre vie de couple, votre vie de famille.
Ok.
Qui de vous deux a le plus fait semblant de pas entendre les enfants pleurer la nuit quand ils étaient tout petits?
Je pense que c'est moi.
C'est étonnant ça.
Voilà. Non mais je comprends pas. Moi parfois je me dis il faut que je dorme de son côté. Peut-être que je les entendrai pas. Moi je les entends tout le temps. J'arrive pas.
Ah, non, mais
je sais pas.
C'est la
maman,
même
c'est
à la
ça.
Maison.
Non mais
je vais pas parler du sommeil de mon conjoint. Tu le sais. Hein, tu connais l'anecdote. Mais il ne se réveille pas du tout.
Non mais
même s'il y a un attentat dans la maison, il ne s'est pas réveillé.
Ouais non mais moi je comprends pas. Non mais je sais qu'il y a un complot. Dis-moi la vérité.
Non mais côté fenêtre on n'entend pas.
Ouais c'est ça.
Côté porte.
C'est chelou hein, les mecs, on a toujours le côté où je sais pas, le son ne passe pas.
Ouais, le son ne passe pas.
C'est pas notre faute en fait, c'est vraiment, c'est le destin.
C'est l'acoustique.
Ouais.
Qui renvoie le plus vers l'autre, va demander à maman, va demander à papa.
Chérie, il les envoie tout le temps. Non, non. Oh, tu mens. Oh, c'est un menteur.
Non, par contre,
c'est exactement ça que je voulais, une séparation en direct.
Tu prends jamais de décision.
Tu ne veux pas froisser
les enfants. Quand c'est négatif, va voir papa.
Pas vrai, tu mens. Non. C'est lui parce qu'il dit oh, bah, je sais pas, vois avec ta mère.
Quand c'est positif, je te laisse le bon. Quand faut dire non, va voir papa.
Non, c'est pas
demande vrai, à ton
c'est
père.
Pas, non.
Bon, vous ne mettrez pas d'accord.
Voilà, non.
Impossible. On est trop de mauvaise foi.
C'est ça.
Et puis pour finir, qui de vous deux se coltine les réunions parents-prof?
C'est chéri.
C'est bon. Voilà,
j'avoue que sur ça, moi je l'envoie à chaque fois. Et en plus, dès que je reçois le mail, je dis bon ma chérie, tiens, allez, hop, bah faut bien qu'il fasse quelque chose aussi. Ils ne dorment pas la nuit déjà. Voilà, hop là.
C'est vraiment relou les réunions parents-prof, que je sache un peu à quoi m'attendre.
C'est chiant. Enfin, ouais, c'est chiant. Non, faut dire la vérité, c'est chiant.
Alors, je vous rassure tout de suite, ma mère est directrice d'école maternelle.
Ah.
C'est pas que pour les parents que c'est chiant. D'accord.
Bah,
apparemment,
oui, bah,
c'est un truc un peu informel qu'on se dit pas, mais tout le monde trouve ça chiant.
Ouais,
non, mais juste leur dire que quand t'es adulte, s'asseoir sur une petite chaise d'enfant maternelle, c'est compliqué quand même, hein, franchement.
Mélina, on te retrouve sur Instagram, donc c'est Mélinana.
C'est ça, 2
avec
I.
14 I, 8 A.
Voilà. 2 I, 3 A à la fin, pardon.
De toute façon, on va partager, évidemment, on va faire un petit réel hein, sur
avec
Instagram. On te identifiera dedans.
Et il y a le podcast de l'interview qui va arriver dans la journée aussi.
Exactement. Je vous remercie beaucoup, Anthony, Mélina, d'être venu sur
Voltel.
On a passé un super moment avec vous. Je vous souhaite un bon retour.
Merci.
Bonne nuit sur Voltage. Voici votre musique préférée.
Baby. Sous le charme, je suis tombé sur ton corps, mes larmes s'embellissent. Mais ton âme m'a trompé quand tes lèvres m'ont mis en délire. Je vois ton visage rien qu'à moitié. Le vrai se cache comme par pitié. Attends de me tuer comme ça. Je voudrais seulement être à
côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser. Toi, est-ce que ça te plaît? Arrête de me tuer comme ça. Je voudrais seulement t'avoir tout près de moi. Tu sais que les mois effacent la peine. Viens, fais comme ceux qui s'aiment.
Les meilleures classiques clubs, les meilleures nouveautés et remix exclusifs. Voltage.